s'en va dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Et on va juste lire les versets 9 et 10, qui sont les versets les plus connus du chapitre. Mais on va considérer tous les versets qui sont autour pendant le message. Avant qu'on lise, je veux juste répéter de façon très succincte et brève ce que j'ai dit ce matin avant le temps de prière, avant qu'on lise. Paul payait le prix d'aimer cette église. Et c'était un prix de souffrance et de contrariété. Mais Dieu formait exactement à travers ces choses Christ en lui. Et la sécurité de Paul, c'est dans le fait qu'il était aimé de Dieu. Dans le fait que Dieu était bon envers lui et que sa grâce est suffisante. Il y a quelque chose de très salutaire là-dedans, quelque chose de très précieux pour nous. Parce que aimer les autres, c'est accepter de souffrir pour leur bien et oui aussi pour leur péché. C'est plate des fois, là, mais c'est ça la vie. Puis ça vient de Dieu. C'est Dieu qui permet ça pour former Christ dans ses enfants. Et aussi pour amener ceux qui ne connaissent pas à le connaître, le seul vrai Dieu. Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Donc, on lit ces versets 9 et 10. Il m'a dit, donc Dieu dit à Paul, ma grâce, on pourrait dire Jésus parce que Jésus est la grâce de Dieu qui a été manifestée. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, je peux dire que peut-être que j'apprends, mais je ne peux pas dire comme Paul que vraiment je me plais, que je prends plaisir dans la faiblesse, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses. Mais merci que toi, Seigneur, non seulement à moi, mais je sais aussi à mes frères et sœurs, tu nous enseignes Christ à travers ces choses. Et que tu nous enseignes à trouver plaisir dans ces choses, pas en tant que telles, mais parce qu'elles sont le moyen de te connaître, de te découvrir, de t'apprécier, de jouir de ta vie et de manifester ta vie dans notre faiblesse, dans nos vases craqués, des vases de terre sans gloire, afin que la gloire te revienne à toi, Seigneur. Enseigne-nous ces choses, écris-les sur nos cœurs, accomplis, Seigneur, tes plans qui sont toujours bienveillants dans nos vies, chacun et nos familles, cette Église, Seigneur, merci pour ton amour. Merci qu'il est éternel, qu'il est bon, qu'il est vrai. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Notre puissance, un moyen, non pas une fin. Dans votre bulletin, c'est pas mal plus long que ça, là, mais je l'ai raccourci un peu. Un titre, il ne faut pas que ça soit trop long. La puissance de Dieu, on entend parler de ça de nos jours. Hein? Ah, la puissance pour ci, puissance pour là. La puissance, quand on comprend les choses à la lumière de l'œuvre accomplie de Christ, on voit que c'est un moyen que Dieu utilise, et non pas une fin. Ah, j'ai la puissance, tout va aller bien. Non, c'est juste un moyen vers Christ, vers ce que Dieu veut faire. Et je sais que tout le monde ici, vous avez sûrement déjà lu ces versets-là, en tout cas. J'imagine. Vous avez sûrement même entendu des messages sur ces versets-là qu'on vient de lire, peut-être un point dans un message, mais j'aimerais les considérer ensemble pour y goûter encore pour la première fois comme des cornflakes. Avec les versets aussi qui vont autour, mais à la lumière de l'œuvre parfaite et accomplie de Christ. Pour qu'on voit que la puissance qui s'accomplit dans la faiblesse, ce n'est pas une fin en tant que telle, mais c'est le moyen par lequel Dieu accomplit ses plans bienveillant dans la vie de ses enfants. Parce que, à cause du fait que nous sommes complets en Christ, hein, c'est ce que la Bible dit dans Colossiens 2:10, puisque nous sommes complets en Christ, la puissance de Dieu n'est pas la fin, elle est le moyen vers la fin. Et quelle est cette fin? Jésus. Jésus est la fin de toute chose. Il est le commencement et la fin. Donc, la puissance est un moyen de connaître le Seigneur. Et donc, c'est le moyen de le connaître, de demeurer en lui, de porter le fruit de sa vie. Et ça se fait par l'intermédiaire de choses, des fois, qu'on a de la misère à accepter. Mais le but de Dieu, c'est pas de juste nous régler nos problèmes et que tout soit facile. Le but de Dieu non plus, c'est pas quand il nous arrive des choses que nous, qu'on soit mis de l'avant, mais que Jésus, notre vie, soit mis de l'avant. Et c'est ça son plan qui fait en sorte que dans notre vie, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, hein, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ce qui fait que Dieu, comme ça, à travers ce qu'on vit, nous transforme à l'image de Christ. C'est ce qui est l'Esprit de Dieu en nous, travaille pour former Christ en nous. Et donc, c'est le pattern divin. Dieu se sert de la souffrance, de l'adversité, de la contrariété, comme on va le voir dans le message, comme un rendez-vous divin. Un rendez-vous pour le découvrir, lui, le Dieu Tout-Puissant, s'en émerveiller, s'émerveiller de lui, le Saint, l'incomparable. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble avec simplement, aujourd'hui, deux moyens par lesquels Dieu s'assure que nous sommes convaincus que la puissance, c'est pas une fin en tant que telle, c'est un moyen de découvrir Christ. Et donc, on va voir ça avec, d'abord, la souffrance. On va lire les versets, on a lu les versets 9 et 10, on va lire les versets 7 et 8 qui les précèdent pour nous donner du contexte. Puis, on va relire les autres, mais verset 7. Et pour que je ne sois pas... Donc, ici, Paul s'était fait donner des grandes révélations, là, vraiment glorieuses. Il avait été dans la présence de Dieu même. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me suffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » Car ma puissance, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Voyez-vous comment c'est le moyen? Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, par ce moyen-là, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. On voit dans ce passage-là de la souffrance. De la souffrance, d'abord, relationnelle. Un ange de Satan qui était constamment là, puis ça venait aussi du contexte plus large, où est-ce que Paul, Dieu l'utilisait grandement, il a révélé des grandes choses, il était utilisé par le Seigneur de façon unique. Et ça l'a amené aussi de la souffrance physique. Il y avait mal. Il y avait de la souffrance relationnelle dans la vie de Paul, il y avait de la souffrance physique. Et les deux, autant la souffrance relationnelle que physique, étaient le moyen ou la façon pour Dieu de le rencontrer, de lui donner Christ, sa grâce suffisante. Autrement dit, le désagrément, le dérangement était dans le but de le pousser vers le réconfort de Christ ou vers le Dieu de toute consolation, pour prendre les mots même de Paul au début de cette épître. Parce que la deuxième épître aux Corinthiens parle beaucoup de souffrance, puis c'est comme ça que ça l'ouvre. Il a même eu, à un moment donné, il ne voulait pas espérer même rester vivant, tellement la souffrance était grande, son espérance était en Dieu, qui ressuscite les morts. Donc, c'est allé très loin de la souffrance dans sa vie. Et on le voit aussi dans ses écrits, la souffrance relationnelle pour ces chrétiens de Corinthe qu'il aimait tant. Son cœur s'était ouvert pour eux, mais pour eux, il s'était rétréci. C'était dur, des gens qui aimaient, qui en retour lui donnaient pas, il n'y avait pas cette réciprocité. C'était souffrant. Paul vivait de la souffrance. Et j'aimerais regarder la dynamique spirituelle de tout ça pour nous aider à soutirer ici ce que Dieu a pour nous à travers cet exemple de la vie de Paul et les vérités qui sont sous-jacentes. Quand on regarde la souffrance, qu'elle soit relationnelle, hein, on est déçus les uns des autres, des fois on se fait souffrir, mensonge, manipulation, indifférence, des blessures, il y en a toutes les sortes de façon relationnelle. Il y en a aussi dans le domaine physique. On s'est assorti beaucoup dans le temps de prière des gens qui, pour une saison de leur vie, puis des fois c'est comme ça que leur vie finit, sont dans une souffrance physique. Et ça l'affecte évidemment notre cœur. Donc, il y a une pression qui s'exerce sur nos cœurs avec cette souffrance physique, relationnelle. Et cette pression sur le cœur pousse à une réaction. Action, réaction. Et lorsque c'est nous qui sommes au centre de notre cœur, lorsque c'est moi qui dirige, qui est à la proue, qui est au contrôle, ben la réaction et la réponse, c'est quoi? Ça va être différentes formes d'hostilité, de frustration, et tout le domaine de découragement, vraiment beaucoup de choses qui, dans le fond, me tirent vers le bas. Ou pour le mettre dans les mots de Galates 5, 18 à 19, les œuvres manifestes de la chair. Et aussi, les œuvres moins manifestes, plus subtiles de la chair. Donc, j'ai cette pression qui s'exerce sur mon cœur par la souffrance relationnelle et physique. Et donc, si c'est moi qui réagis, c'est ma chair qui réagit, ben c'est une réaction soit des œuvres manifestes de la chair, ou des fois, c'est ça, ce qu'on appelle les mécanismes de défense. La chair, là, qui est plus embellie, mais qui est la chair pareille. OK? Donc, pression, action, réaction. OK? Donc, ça, c'est notre vérité de départ que je veux qu'on regarde. Et évidemment, ça a des conséquences négatives. Si je suis hostile, si je laisse ma chair agir, que ce soit de façon hostile et ouverte et manifeste, ou que ce soit de façon plus subtile pour arriver à mes fins, puis que les autres deviennent des façons de manipuler mes circonstances, puis de les manipuler eux autres aussi, mais ça ne va pas aller bien dans mes relations. Ça ne va pas aller bien dans mon corps, dans mon cœur. Pourquoi? Parce que cette pression, c'est toute moi qui l'absorbe. C'est toute moi qui la gère. OK? Et ça devient un cauchemar. C'est dur de vivre de même. C'est dur de vivre en prenant la pression, en assumant la pression de la souffrance. Je n'ai pas fini, il va y avoir un autre point après, là. Mais déjà, regardez avec ça une première pensée. Donc, ce que je viens de vous décrire là, c'est sûr que ça sonne familier pour tout le monde. C'est la vie. C'est ça, la vie. La vie, il y a de la pression. La vie, c'est pas idéal. La vie est dans un monde déchu. Et donc, j'espère que vous reconnaissez, puis mon but, là, c'est pas de vous accuser, de vous culpabiliser, de vous faire sentir mal. Je veux dire, c'est la vie sur Terre, on est tous dans le même bateau. Si vous voyez pas ça, ben, soit vous êtes aveuglé, vous faites des accrocs vous-même, mais c'est la réalité. Si, face à la pression, c'est moi qui réponds, c'est ça qui va arriver. Mais mon but de partager tout ça, c'est pour nous aider ce matin à voir, à être convaincus, okay, au-delà du problème, que Dieu a un but dans tout ça. Okay, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il permet à ces choses d'arriver dans notre vie. Oui, c'est lui qui permet qu'on ait cette personne-là qui vient nous chercher d'une façon spéciale. Et ces circonstances-là, OK, c'est Dieu qui permet ça. Et Dieu a le but avec ces choses... de déplacer la centralité du soi dans mon cœur, justement de briser cette affaire que c'est moi qui réponds, pour mettre Christ à la place. Parce que Dieu, dans le fond, dit, tu vois, la pression va toujours arriver. Est-ce que c'est toi qui la gères ou tu veux que moi je la gère? Dieu le permet pour nous faire expérimenter dans notre propre peau la différence entre les deux. Je parle aux enfants de Dieu ici. Ou pour le dire encore dans des mots que j'ai employés tantôt, Dieu permet ces choses pour qu'on puisse vivre dans notre propre peau la loi spirituelle, christique, de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Est-ce que je l'accepte comme étant la volonté parfaite de Dieu? Avouez que Christ était parfaitement dans la volonté de Dieu et il souffrait constamment pour le bien puis le péché des autres. Nous, en plus, on a notre propre péché à mêler là-dedans. Mais ça fait partie de tout le dessein de Dieu avec ses enfants. Puis là, je ne suis pas en train de dire que tous les souffrances qu'on a, qu'elles soient relationnelles ou qu'elles soient physiques, sont auto-infligées. Là. Ah, c'est de ma faute, j'ai pas eu de foi. Okay. Non, des fois, il y a des choses que Dieu permet. Tu sais, Job, il n'y avait rien d'évident qui disait, hey, Job, justement, c'est ce que Sémé essayait de dire. Tu as dû faire quelque chose, ça doit être de ta faute. Non, c'est Dieu qui avait permis ça. Puis, okay, des fois, c'est auto-infligé, mais des fois, c'est juste, c'est hors de notre contrôle. C'est Dieu qui a fait les choses de même. Mais le point majeur, écoutez bien, là c'est vraiment important pour ce point ici, ce que je veux communiquer ici, et comprenez la réaction à ces pressions qui s'exercent sur mon cœur, la frustration, okay, que j'en sois la source ou non, là, c'est pas ça la question. La réaction est révélatrice, de qui règne, qui contrôle dans mon cœur. C'est ça le but de Dieu. Dieu me dit, OK, c'est qui contrôle, c'est qui dirige? C'est toi ou c'est moi? C'est ça le but. Dieu permet de se prendre pour dire, OK, c'est qui gère? C'est qui dirige, c'est qui règne? Puis Dieu, dans sa bonté, il fait ça pour nous révéler la réalité des choses afin de déplacer le règne du soi, le contrôle du soi, puis mettre Christ à la place, le bon berger. Pour ça que c'est bon. Puis au lieu de dire, ah, j'aime pas ça, je veux que ça parte, dire, merci Seigneur parce que tu me sauves moi de moi. Tu me délivres de moi, mes tendances, de ma chair. Et donc, il y a quelque chose de vraiment salutaire là-dedans. Dieu permet ça dans la vie de ses enfants bien-aimés. Comme Paul le disait aux Galates, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Galates 5, 19 et 20. Aussi, la Bible nous dit dans Daniel 2, 22. Ça, vous devriez apprendre ça par cœur, ce verset-là. C'est tellement merveilleux, là. C'est un verset qu'on peut prier. Seigneur, je ne comprends rien de ce qui m'arrive, tout ça, mais toi, Seigneur, tu révèles ce qui est profond et caché. Tu connais ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec toi. En fond, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous révèle nous-mêmes à nous-mêmes. Il révèle ce que nous-mêmes, des fois, on peut être aveuglé à nos patterns, à nos réactions, à nos tendances. Puis Dieu nous révèle la réalité de nos cœurs, pas pour dire comment on est donc pas bon, puis pour nous décourager, pour nous montrer comment lui est bon, puis comment il prend soin de nous, puis que lui est bien mieux que nous autres. Et donc, si je l'amène dans une autre lumière, Daniel 2, 22, Dieu révèle ce qui est profond, ce qui est caché. Et Dieu, il sait ce qui est profond, puis ce qui est caché, mais Dieu sert de la souffrance comme un moyen pour nous le faire connaître. Parce que Dieu n'a pas besoin de le connaître, il le connaît déjà, mais il nous fait connaître. Nos cœurs, nos patterns, il nous fait connaître nous-mêmes, afin qu'on apprenne, qu'on apprécie la beauté et la bonté de dépendre de Dieu. Combien de fois que ça, je veux mettre l'emphase là-dessus, c'est bon de dépendre de Dieu. La chair, elle pense pas ça. Parce que c'est ça, c'est toute une idée de contrôle. Hey, là, si je dépends de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Là, on a peur de prendre le contrôle. Ça, c'est la chair. Ça, c'est quand moi réponds à ces choses-là. Ça nous fait peur. C'est de la pression. Puis, il y a des peurs légitimes. Mais justement, c'est si Dieu est le bon berger, si lui-même prend soin de nous, est-ce que la foi, ce n'est pas justement quand il y a cette pression de faire confiance à lui qui vit en nous? Puis aussi lui qui est tout puissant pour s'occuper de ces choses-là. J'ai-tu plus confiance à moi ou à Dieu? C'est ça l'idée de la centralité de moi dans mon cœur versus Dieu. Et où ma confiance? Ça, c'est la foi. Et la souffrance nous fait sortir ça. Dieu, dans sa bonté, nous révèle ces choses. Et là, ça m'amène au deuxième moyen par lequel Dieu s'assure qu'on soit vraiment convaincu que la puissance, là, « Ah, Dieu, aide-moi à régler cette affaire-là, puis je veux me débarrasser de mon problème. » Non, la puissance, c'est pas une fin. C'est un moyen pour nous révéler Christ, OK? Parce que si on pense de même, « Dieu vient m'aider à régler mon problème », on peut passer complètement à côté de Dieu lui-même. Dieu n'est pas venu pour régler nos problèmes, il est venu pour se révéler à nous à travers nos problèmes. Ça aussi, les problèmes, c'est juste un moyen, un intermédiaire vers Dieu. Dieu est la fin de tout. Il est le commencement, il est la fin. Donc, le deuxième moyen, je ne sais pas si vous avez été déjà déçu des fois, mais là, on va le voir. Non seulement il y a la douleur, mais aussi la contrariété. Paul, il les aimait, les Corinthiens, mais regardez comment ce n'était pas réciproque, ça ne venait pas en retour. Puis là, je ne dis pas de façon absolue, parce que je pense qu'il y avait un amour pour les Corinthiens, pour retour, mais regardez ce qu'on lit, puis voyez la contrariété dans ce que Paul est en train de communiquer. J'ai été un verset 11. « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. » Les épreuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges, des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je n'ai point été à votre charge, pardonnez-moi ce tort. » D'abord, c'était humiliant pour Paul. Il s'est donné complètement, puis en retour, il y avait du mépris. Puis il dit que la gloire de Dieu s'est manifestée non seulement à travers les miracles, le spectaculaire, mais aussi par une patience à toute épreuve. Dieu s'est manifesté par la patience de Christ en Paul. Donc, c'est la contrariété d'être humilié par rapport à... Tu sais, il a voulu les aider, puis tout ça, puis là, il était vu comme celui qui profite, comme celui qui... OK? Mais regardez, c'est pas la seule façon qui a été mal compris. Regardez verset 14. « Voici pour la troisième fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serai-je moins aimé de vous? » Et regardez le verset 16. « Soit, je n'ai point été à votre charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. » Voyez-vous, il était mal compris. Il disait, « Ah, tu veux profiter de nous autres. » Il n'était pas compris, alors qu'au contraire, il était sacrificiel, puis il vivait dans l'abnégation. Il était accusé d'être profiteur. C'est ça la contrariété. Contrariété d'être humilié, d'être mal compris. Puis regardez aussi les versets 19 à 21 avec ses attentes. Verset 19. « Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. » Voyez-vous comment il les aime, comment il veut leur bien, comment il veut le mieux pour eux autres. Puis il dit, « Je crains. » Il y avait dans son cœur... il avait peur d'être déçu, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne le voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, des jalousies, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu, ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. La contrariété de l'humiliation, d'être mal compris, puis des attentes déçues. Je pense qu'il voulait le mieux pour les Corinthiens. En fait, il voulait le mieux. Mais d'être déçu, je vais aller chez vous, je risque d'être déçu dans mes attentes. OK, qu'est-ce que Dieu faisait dans tout ça pour Paul? Tout cela arrivait pour que Dieu... qui est la solution à toutes ces contrariétés, puisse se manifester. Et là aussi, je veux prendre le temps de vous expliquer comment tout ça, ça se passe spirituellement. Je veux vous expliquer comment Dieu se sert de la contrariété pour exercer le ministère bienveillant de son esprit et de sa parole sur nos cœurs, nous, ses enfants. Puis, encore là, dit « laisser » Jésus-Christ à être au contrôle. Parce que tout est une question de contrôle. Ce qu'on parle aujourd'hui, là, c'est une question de contrôle. Savez-vous ce qui va de pair avec le contrôle? La peur. Si j'ai peur qu'il arrive ici, que ça tourne comme ça, je vais essayer de contrôler. Puis si j'ai peur, puis que par la foi, je me tourne vers Dieu, je vais dire, « OK, Dieu, je vais te laisser contrôler. » Ça, c'est la foi. C'est là. Puis, c'est qu'est-ce qui motive cette foi? Dieu même. Lui-même prend soin de moi. Pourquoi j'aurais pas peur lorsque je laisse à Dieu le contrôle? Parce qu'il m'aime. Si Dieu m'aime, pourquoi? L'amour parfait bannit la crainte. Et on va développer ça un petit peu. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Mon appel tantôt pour le salut, ceux qui ne sont pas sauvés, ça va être tantôt, mais vraiment, mon message, de manière générale, s'adresse vraiment à ceux qui sont des enfants de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Qu'est-ce que Dieu communique à notre esprit lorsqu'on est un enfant de Dieu par rapport à la contrariété? Ben tiens, j'ai un mot pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. D'abord, tout commence au salut. Dieu, lorsqu'il nous sauve, il nous rend vivants. On était morts dans nos offenses et nos péchés. Il nous rend à la vie par son esprit. Notre esprit était mort, il était étranger à la vie de Dieu. On avait l'intelligence obscurcie. Puis quand on est né de nouveau, on vient de connecter avec Dieu. On a la vie. OK? Puis, remarquez ici comment tellement ici, je pense qu'on pourrait faire un espèce de petit sondage, là, mais souffrance, contrariété, combien sont arrivés à finalement céder leur vie au Seigneur pour être sauvés à travers l'instrumentalité de la souffrance et de la contrariété. À divers degrés, de différentes manières, mais n'est-ce pas que c'est instrumental pour Dieu de se servir de ces jours pour nous amener à Christ, pour nous donner sa vie? Et c'est là qu'on voit, bien, c'est tellement, ça vaut la peine. Et c'est là que ça commence, le salut. Et donc, est-ce que tu connais Dieu personnellement? Est-ce que tu vois que ce qui t'arrive, c'est pas par hasard, c'est parce que Dieu veut te sauver, veut te donner la vie? Ça, c'est mon premier point par rapport à ce que Dieu fait dans notre esprit. Mais une fois qu'on est sauvé, en fait, Jean a été écrit pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent être sauvés. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Ça, c'est Jean. Puis dans 1 Jean, c'est pour les enfants de Dieu qui aient l'assurance. Je vous ai écrit à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous sachiez, que vous ayez l'assurance que vous avez la vie éternelle. Et donc, l'assurance, non seulement être sauvé, mais savoir qu'on est sauvé, ça fait partie du ministère du Saint-Esprit à travers la contrariété. Et là, c'est important parce que tout comme la contrariété peut nous amener au salut comme point de départ, Dieu aussi affermit notre foi, forme Christ en nous, notre confiance en lui et la réalité du salut dans notre vie à travers la contrariété pour que notre confiance en lui devienne inébranlable. Et moi, je me rappelle d'avoir vécu ça en tant que jeune enfant de Dieu, où est-ce que on peut mettre pas mal tous les points de souffrance relationnelle et contrariété avec le fait que j'étais quand même un assez jeune chrétien, des études bibliques, puis Dieu a envoyé dans l'Église des personnes où est-ce que là, deux hommes missionnaires qui étaient aux antipodes théologiquement. Puis tu sais, c'était comme la chicane, là, c'était pas très beau, là. Et moi, j'étais comme au mieux de ça, à savoir, OK, c'est quoi la vérité, puis tu sais, spécialement dans le domaine sotériologique et bibliologique, OK? Le salut, puis, tu sais, la Bible, la parole de Dieu, c'est-tu vraiment... Bon. Puis j'ai été tiraillé là-dedans, je me rappelle. Mais, dans cette contrariété, puis bon, une certaine souffrance relationnelle, là, mais c'est pas comme si je broyais à tous les soirs, mais il y avait une contrariété, j'étais tiraillé là-dedans. Dieu s'est servi de ça pour affirmer mon assurance en lui. Parce que, à travers ces choses... J'ai cherché Dieu, j'ai cherché ses réponses, je l'ai cherché lui, parce que là, me tournes-tu vers un homme ou vers un autre? Non, je pense que je vais me tourner vers Dieu. Puis Dieu m'a donné ses réponses, puis il m'a affermi dans, non seulement ma foi par rapport à ces deux questions-là, mais ma foi en lui, mon assurance d'être son enfant, puis qu'il s'occupait de moi, puis que ces choses-là qui me tiraillaient, Dieu lui-même s'en occupait. Voyez-vous, la contrariété a formé en moi une plus grande assurance. Puis là, j'ai donné juste un petit exemple, mais je veux vous en donner d'autres de la parole de Dieu avec ce que Paul partage dans sa vie qui était plutôt... la vie de Paul n'était pas longue et banale et un long fleuve tranquille, là. Et je vous lis une couple de références en rafale par rapport à ça. Paul qui dit dans 2 Timothée chapitre 1, « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. » Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Voyez-vous comment il était affermi dans sa foi dans le Seigneur? Il grandissait dans son assurance. Regardez aussi Acte 27. Paul parle d'un ange qui lui a parlé, qui lui a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Et aussi, ben justement, dans 2 Corinthiens, au tout début, j'y ai référé tantôt, quand Paul souffrait tellement. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie et que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de tel point que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certaine notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Tous ces versets que je viens de vous lire se passent dans le contexte d'enfants de Dieu qui sont exposés à la souffrance et à la contrariété, mais où est-ce que le résultat final, c'est une plus grande assurance en leur Dieu. Donc c'est ça que Dieu fait. salut, assurance. Puis savez-vous comment Dieu a grandi notre assurance? Tu sais, quand on est au milieu de ça, là, Dieu nous donne des promesses extraordinaires. Dieu nous montre sa fidélité. Ça, c'est la sécurité que Dieu nous donne en lui. C'est le côté divin de l'assurance. C'est Dieu qui nous rassure dans notre cœur même de ses promesses, de sa fidélité. C'est là-dessus que va s'asseoir le fondement sur lequel s'assoit notre assurance. Par exemple, dans Ésaïe, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Je te soutiens de ma droite. Et on... Combien ici ont été encouragés en disant ces versets-là dans des moments de leur vie? N'est-ce pas, hein? C'est précieux, ça. C'est la sécurité que Dieu nous donne. T'es mon enfant, puis je suis avec toi. Voulez-vous que j'en donne une coupe d'eau? Tant qu'à y être, hein? Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et aussi, j'aime quand Dieu dit que lui-même, tu sais, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il dit, OK, il dit aux anges, OK, restez là, moi je m'en occupe de ça, je vais prendre soin de mon enfant. Il n'y a pas d'intermédiaire, il le fait direct. Et ça, c'est des promesses aussi, ce qu'on a lu là, c'est aussi des promesses faites dans le contexte de la contrariété puis de la souffrance. Parce que c'est là que Dieu nous rencontre. Et je vais amener un autre point pour qu'il nous aide vraiment dans... Lorsqu'on est au sein de contrariétés, de choses qu'on ne comprend pas, qui sont dures à accepter, qui de toute évidence, souvent, on ne veut même pas accepter. Seigneur, comment ça? Ça ne marche pas, OK? Oh, j'aime ce mot, acceptation. Dieu nous montre qu'en Jésus, on est dans le bien-aimé. Savez-vous quoi que Dieu, là, si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être plus accepté que vous l'êtes. Puis vous êtes accepté 24 heures sur 24, dans vos pires journées, dans vos meilleurs, dans l'adversité, dans la contrariété, dans la souffrance, Dieu vous accepte. Pourquoi? Parce que vous êtes en Jésus, dans le bien-aimé. Et c'est l'ultime antidote au rejet qu'on vit. Parce que sur la terre, c'est ça qui nous fait souffrir. C'est ça, on a vécu du rejet et on continue d'en vivre. Fait que c'est le contraste. Même si le monde te rejette, comme Christ a été rejeté, t'es pas rejeté du Père. T'es pas rejeté du Fils ni du Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire est avec toi. Et c'est une question tellement vitale parce que là-dessus repose la fermeté de notre assurance devant le Seigneur, être sûr, être ferme dans le fait que Dieu m'aime, Dieu m'accepte. Et les circonstances adverses et ce que je vis, ce n'est pas la preuve que Dieu ne m'aime pas. C'est pas comme si Dieu dit « OK, là je ne t'accepte plus ». C'est le contraire. C'est parce qu'il m'accepte qui permet ça pour me, encore là, à travers le paradoxe qu'on voit là-dedans qui montre, même si contre vents et marées, tout est contre toi, moi je suis avec toi. Je te délaisse point, je t'abandonnerai point. Et souvent, il y a beaucoup de notre hostilité, de notre contrariété, ce que nous on fait, lorsque le soi règne, lorsque au centre, c'est pas Jésus qui est là. Dieu veut seulement nous amener à laisser le contrôle. Arrêter d'avoir peur. Puis dire, puis j'en reviens à ce que je disais tantôt. Tu veux contrôler parce que t'as peur, parce que t'as peur de perdre des pédales. Pour moi, là, c'est tout réglé. Là. T'es mon enfant, là. Je t'aime, je t'accepte, là. Essaye pas de te contrôler. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui t'ai envoyé ça pour que tu me découvres comment je suis bon envers toi. Et ça devient, lorsque ça grandit, ça devient notre nouvelle identité. C'est l'aboutissement de vivre, de croire en acceptation. Un frère appelait ça « accepter notre acceptation ». Est-ce que tu acceptes que Dieu t'aime, que tu es accepté dans le bien-aimé? Et lorsque ça devient un mode de vie, une façon de penser, de vouloir, de ressentir, là on vit vraiment, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et le but de Dieu avec tout ça, toute cette contrariété, c'est de nous révéler son Fils en nous. Qu'on dise, waouh, quel Dieu. Ou qu'on puisse dire, comme Paul dans Philippiens chapitre 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et portant mes regards vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je fais une chose. Il y avait un objectif unique et simple. Dis à travers tout ce que tu fais, c'est toi que je veux. T'es ma récompense. C'est toi qui m'as appelé. Et je cours après toi, Seigneur. Et c'est ça que Dieu veut. Peu importe ce qui nous arrive, Dieu nous donne toutes ces vérités-là précieuses pour que ça soit lui qu'on cherche. Savez-vous quoi? Si on cherche, il nous promet. Il nous promet qu'on va le trouver. Et donc, je veux terminer avec ça. Je vous répète le titre du message. La puissance n'est pas une fin, mais un moyen. N'est pas une fin en tant que telle, mais le moyen de découvrir Dieu. Le moyen de vivre, d'expérimenter ma nouvelle identité, mon salut, la vie que j'ai en Jésus, de jouir de ce que je suis en lui. Et est-ce qu'on est d'accord que c'est une grande lutte de la vie chrétienne d'accepter ces choses? C'est une grande lutte de vivre dans un monde avec la souffrance et la contrariété. Mais voici avec quoi je veux terminer. Dieu lui-même combat pour nous, afin de nous faire vivre ces choses. Dieu lui-même combat pour nous. Donc, voici ma question. Est-ce que tu laisses Dieu combattre ou est-ce que tu te débats? Est-ce que tu laisses Dieu combattre ou est-ce que tu te débats? Soit, lorsque on se débat. Mais lorsqu'on laisse Dieu combattre, c'est Christ. C'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Une bonne façon de visualiser. Dans ta vie, là, si tu regardes, tu es quelqu'un qui est en train de te débattre en ce moment? Ou est-ce que, d'une façon surnaturelle qui ne s'explique pas, c'est Dieu qui combat pour toi et toi, tu as une paix. Tu as une joie dans ce qui t'arrive et ça ne s'explique pas. Puis, pensons pas au club des parfaits, là, de ceux qui l'ont dit. Dieu permet que ça arrive, puis il y a des fois, on l'échappe, des fois, mais c'est Dieu qui forme Christ en nous, puis quand il permet la souffrance, qui permet l'adversité, Dieu nous fait expérimenter ça. Donc, je suis pas en train de dire, hey, là, on a-tu une gang qu'eux autres, là, ils ont tout compris, puis sont là. Non, ça n'existe pas, cette gang-là. Peut-être juste dans notre imagination, là. Mais c'est dans le quotidien, Dieu nous fait vivre la souffrance relationnelle, la souffrance physique, la contrariété, pour que ça devienne un pattern de vie. Au lieu de se débattre, puis que le moi est tout de même, puis tout ce qui en ressort, qu'on apprenne à laisser Dieu lui-même prendre soin de nous, combattre pour nous. N'est-ce pas que c'est partout dans la Bible? Je vais combattre moi-même pour vous. Puis souvent, parce qu'on dit, ouais, mais là, un chrétien, c'est... on ne va rien faire si on laisse Dieu combattre. Bien, là où est-ce qu'on a de la misère à comprendre, c'est que c'est pas rien faire. C'est laisser Dieu faire l'essentiel, puis on embarque dans après ça ce que lui fait. Mais je veux dire, oui, c'est vraiment laisser Dieu combattre. C'est pas Dieu combat, puis je l'aide. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Ça revient vraiment à la question de contrôle, de confiance. Fais-tu confiance que Dieu est capable? Puis Dieu, fais-toi pas. Si tu fais confiance à Dieu, là, il va s'occuper de tout te diriger dans toutes ses voies. L'Esprit nous dirige dans toute la vérité. Puis il va s'occuper de tout ce qui est là. D'ailleurs, là-dessus, j'ai posé la question, est-ce que tu laisses Dieu combattre ou tu te débats? Est-ce que tu te débats alors qu'il te dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, ou qu'il nous dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations. Puis il répète, comprends-tu qu'on a compris, je domine sur la terre. Quand Dieu répète, c'est pas parce qu'il voulait prendre plus de place dans la Bible, c'est parce qu'il met l'accent. Je domine. Qu'est-ce qu'on a vu? Quand on capote et qu'on a ces réponses-là, c'est que c'est nous qui domine. C'est nous qui se débat. Mais Dieu dit, je domine. Oh, elle est là la foi, elle est là la confiance. C'est là que ça se passe, la vie chrétienne. C'est là Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le laisser dominer, lui faire confiance. Ou pour le dire autrement, rendre les armes. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, encore par la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, rends les armes. Parce que Jésus a vaincu pour toi, lui est allé sur la croix. Personne n'a fait ce que Jésus a fait. Donc, tu peux rendre les armes parce que lui a conquis afin que tu puisses avoir la vie. Lui est mort afin que tu puisses vivre. Accepte le plein pardon qui est en Jésus-Christ. Tu n'es pas sauvé. Tu n'as rien à rajouter. Tout est accompli. Il faut que tu acceptes ce que Dieu a fait. Donc, rends les armes. Enfant de Dieu, Toi aussi rends les âmes charnelles. Parce que nous marchons, si nous marchons, nous ne marchons pas selon la chair. Et si nous combattons, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Arrêtons de nous débattre avec Dieu. Laissons les armes charnelles. Revêtons-nous de Christ. Il est notre armure. Tout ça, mes amis, c'est simple au bout du compte. C'est juste de s'humilier. Quelqu'un qui se débat, il se donne beaucoup de misère. Puis il passe beaucoup d'énergie. Puis il n'accepte pas ce qu'on vient de voir ici. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Justement, il dit, mais je ne suis pas capable, je suis fait date de pointe. Tu traduiras ça, c'est ça le point. C'est ça le point. Tu es faible, mon enfant. T'sais. Puis moi, je suis fort. Comme un fois, je dis, hey, peux-tu m'aider? Il faut que je m'en sorte. Non, justement, Dieu ne veut pas régler mes problèmes. Dieu veut se révéler dans mes problèmes. Dieu me montre que je suis faible et que je ne suis pas suffisant parce que lui est suffisant. Jésus, la grâce de Dieu, est parfaitement suffisant. Merci, Seigneur. On a considéré des vérités salutaires, des vérités précieuses. On veut les chérir dans nos cœurs. Dans le moment présent, dans la vérité présente, dans ce que toi tu permets en ce moment qu'on vit. Merci que c'est dans ta bonté que tu permets la souffrance, la contrariété, l'adversité, Seigneur, pour nous délivrer de nous-mêmes. Pour que ce soit plus nous qui vivons, mais Christ qui vive en nous, et qu'on apprenne à vivre dans cette chair par la foi au Fils de Dieu, qui nous a aimés et qui nous aime encore, qui s'est livré lui-même pour nous. Et qui se donne encore. Merci que toi-même, tu combats pour nous. Merci que toi-même, tu prends soin de nous. Seigneur, qu'on puisse être juste sécure, solide, ferme dans cet amour que tu as pour nous. Non qu'on ne promène pas ses regards inquiets. Parce que toi-même, tu nous soutiens de ta droite triomphante. Oh Seigneur, écris ces choses sur notre cœur, que ce soit le baume de nos cœurs, l'apaisement, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.